Il n'y a pas si longtemps que ça, on a fêté la Pâque. C'est la fête la plus importante dans le calendrier chrétien. Désolé de décevoir tous ceux qui sont très fans des cadeaux de Noël. Et puis, cette fête de Pâques, elle se centre sur la mort et sur la résurrection de Jésus-Christ. La mort de Jésus, c'est un événement assez paradoxal. Et puis, elle a pris ses disciples assez au dépourvu. Parce que si Jésus était le Messie, si Jésus était l'envoyé de Dieu qui devait remettre toutes les choses à leur place, il aurait plutôt été censé triompher, régner, devenir le roi, et le boss, etc. Et donc pour les disciples, ça les a pris un peu à froid que tout à coup Jésus, il meurt. Pourtant Jésus lui-même, il avait annoncé sa mort et sa résurrection à plusieurs reprises. Par exemple, dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, verset 22, il dit « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit mis à mort, et que le troisième jour, il ressuscite. » Donc, quand Jésus dit « le Fils de l'homme », c'est une manière qu'il avait de parler de lui-même, pour des raisons que je ne détaillerai pas. Donc là, Jésus annonce clairement qu'il va mourir et ressusciter. Mais il semble que de son vivant, les disciples, ils n'y aient pas compris grand-chose et qu'ils n'aient pas forcément cru ou en tout cas pas intégré que ça allait se passer. Alors, après la résurrection, ils ont bien dû comprendre que c'était important. Ils ont vu que Dieu avait agi d'une manière assez flagrante. Ils ont vu aussi que, suite à la mort et à la résurrection de Jésus, ils avaient reçu le Saint-Esprit qui était promis dans l'Ancien Testament. Donc, ils ont bien dû comprendre qu'il s'était passé quelque chose d'important. Et puis, de la même manière, après la résurrection, Jésus est apparu, entre autres, à deux disciples qui se dirigeaient vers le village d'Emmaüs. Et puis, il leur explique à partir des Écritures, donc l'Ancien Testament à cette époque, pourquoi tout ça devait arriver. On voit donc que c'était nécessaire que Jésus meure et puis que l'Ancien Testament rendait témoignage de ça. Et puis, on voit aussi ça chez Paul. À un moment, il donne une confession de foi très courte et très sommaire du message chrétien. Donc, un petit résumé dans 1 Corinthiens 15, au verset 3 et 4. « Je vous ai transmis en premier lieu ce que j'avais reçu moi-même. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Donc, tout ça nous dit que il fallait que Jésus meure, qu'il fallait que Jésus ressuscite, et puis que l'Ancien Testament était d'accord avec ça. Mais pourquoi est-ce qu'il fallait que Jésus meure? Quel était le sens? Quelle était l'importance? Et bien ça, c'est la question qui n'a pas été forcément immédiatement claire et évidente. Et une bonne partie du travail du Nouveau Testament, ça a été de comprendre pourquoi c'était important, quel effet c'était censé avoir sur nous, pourquoi ça prenait place dans les plans de Dieu. Et puis, dans la suite, c'est resté une question assez centrale de la théologie chrétienne. Et puis, on a compris de diverses manières et sous divers angles quelle était l'importance de la mort de Jésus et pourquoi c'était nécessaire. Le but de ce soir, c'est donc de présenter plusieurs des angles de l'importance de la mort de Jésus et de sa résurrection en partant du Nouveau Testament et puis en disant un tout petit peu comment ça a été reçu dans l'histoire. Alors, un premier grand axe, c'est l'idée, comme apparaissait dans le passage des Corinthiens, que Jésus est mort pour nos péchés. C'est l'idée de Jésus mort à cause de nos fautes. C'est l'idée que les mauvaises actions des hommes méritaient une punition, et puis que cette punition a été prise par Jésus sur sa propre personne. Et je trouve un des passages qui exprime le mieux cette compréhension et puis qui a formé aussi une base de comment on a pu comprendre ça, c'est dans l'Ancien Testament, le chapitre d'Ésaïe 53. Donc Ésaïe, un prophète qui a vraisemblablement vécu autour du 7e ou 8e siècle avant Jésus-Christ. Je lis quelques versets dans Ésaïe 53, c'est-à-dire les versets 4 à 6 et les versets 11 à 12. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées.
Ce sont nos douleurs qu'il a supportées. Et nous, nous l'estimions touché, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était déshonoré à cause de nos révoltes, broyé à cause de nos perversités. La sanction, gage de paix pour nous, était sur lui, et dans ses plaies se trouvait notre guérison. Nous tous, comme du petit bétail, nous étions errants, nous nous tournions chacun vers son chemin, et le Seigneur a fait retomber sur lui la perversité de nous tous. Et un peu plus loin, ayant payé de sa personne, il verra une descendance, il sera comblé de jours. Sitôt connu, juste, il dispensera la justice, lui, mon serviteur, au profit des foules, du fait que lui-même supporte leur perversité. Dès lors, je lui taillerai sa part dans les foules, et c'est avec des myriades qu'il constituera sa part de butin. Puisqu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'avec les pécheurs il s'est laissé recenser, puisqu'il a porté lui les fautes des foules, et que, pour les pécheurs, il vient s'interposer. Donc, je vais peut-être préciser les notions de péché et de pécheur qui apparaissent dans ce passage, et puis qui vont réapparaître dans la discussion. C'est des termes un peu techniques, mais qui sont quand même pratiques. Donc, la notion du péché, je pense qu'on peut d'un côté la résumer dans l'idée d'actes mauvais. Des actes mauvais, je dirais, on peut résumer en trois axes. Des actes qui offensent Dieu, des actes qui nuisent aux autres, et puis des actes qui nous écartent de ce que Dieu veut pour nous, pour nos vies, ce que Dieu veut comme identité, comme manière de vivre pour l'être humain. Et puis, en même temps, dans la Bible, on voit que le péché se résume pas à un certain nombre d'actes qu'on peut faire ou ne pas faire, mais que c'est aussi un état, que c'est un état de révolte et de séparation d'avec Dieu qui se traduit après dans le concret par des mauvaises actions. Et donc là, l'idée qu'on voit transparaître dans Ésaïe, qui a été comprise sur ce genre de base, c'est que les hommes sont coupables devant Dieu à cause de leurs mauvais agissements. Et puis que Jésus porte, lui, la culpabilité, la sanction qui est liée à ces mauvais agissements. Et ça fait que nous, on n'a plus besoin de porter cette sanction, qu'on n'a plus besoin de porter la culpabilité. Maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce que Dieu ne pourrait pas tout simplement pardonner sans passer par la mort de Jésus ? Si le but de Dieu, c'est que la sanction ne nous tombe pas dessus, eh bien, c'est lui le boss, il peut décider d'effacer la sanction comme ça sans autre. Et puis, pour éclairer un petit peu cette question, je vais lire un autre passage, c'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, les versets 23 à 26. « Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être reconnu juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Alors, j'ai aussi explicité le terme d'expiation qui apparaissait au verset 25. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang. L'expiation, ben, c'est un terme technique qui désigne en gros l'action qui est nécessaire pour régler le problème du péché. L'action qui est nécessaire pour que le péché ne produise plus d'effet, en particulier au niveau de la relation entre l'homme et Dieu. Et par rapport à la question de pourquoi Dieu n'a pas simplement pardonné sans passer par la mort de Jésus, il y a cette idée, il a voulu montrer sa justice. Dieu a, Dieu est patient avec les hommes et il n'a pas directement puni tous les péchés commis avant la mort de Jésus. Et encore aujourd'hui, il ne punit pas directement tous les péchés que les hommes peuvent connaître. Mais si Dieu ne punissait pas du tout le péché, ça voudrait dire, en gros, qu'il estimerait le péché comme quelque chose de négligeable, comme quelque chose de pas grave, comme quelque chose de pas important. Donc Dieu montre sa justice et il montre son refus du mal en Jésus. À la croix, Dieu montre ce que le mal mérite vraiment. La mort infamante et honteuse de Jésus sur la croix, c'est la sanction que méritent toutes les mauvaises actions des hommes. Et puis, mais dans son amour pour Dieu, pour nous, Dieu vient en Jésus et vient porter lui-même la sanction que méritent nos actes. Donc, en passant par là, il peut ne pas bouger dans l'ignota sur la gravité du mal et en même temps nous épargner nous de subir cette sanction. Et puis, bon, je crois qu'il y a beaucoup d'autres textes bibliques qui appuient cette vision, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, elle est quand même très fortement contestée. D'une part, aujourd'hui, on ne trouve plus forcément qu'une mauvaise action mérite forcément une punition. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ben voilà, quand on fait du mal, c'est normal, ça arrive, et puis on est un peu obligé parce que l'environnement ou l'éducation, etc., nous conditionne à ça. Et donc punition, ça n'a pas de sens et puis ça n'a pas d'intérêt. Bon, je résume un peu, mais il y a des idées qui vont dans cette ligne-là. Et puis, d'autres trouvent aussi injuste que Dieu punisse un innocent à la place des coupables. Certains vont jusqu'à parler d'un abus cosmique commis par Dieu sur son fils, où ils disent que c'est l'image d'un Dieu sanguinaire qui a besoin de voir couler le sang pour être calmé. Et alors, par rapport à ça, bon, par rapport à la notion de l'abus, je crois que cette notion tombe à l'eau quand on reste conscient que Jésus, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas un pauvre innocent pris au hasard que Dieu allait chercher pour servir de moyen d'expiation pour les autres. C'est Dieu lui-même qui se donne lui-même en victime. Donc dire que Dieu abuse de lui-même, je ne trouve pas que c'est très pertinent. Et puis, ce n'est pas un reproche qu'on peut faire à Dieu. À mon avis, ça montre plutôt la grandeur de son amour pour nous. Et puis l'histoire du Dieu sanguinaire, c'est une très mauvaise manière de tourner la chose, mais la réalité qui est exprimée dans cette vision, c'est justement le fait que Dieu prend le mal au sérieux, que toutes les atrocités et tous les petits coups tordus et destructeurs qui se commettent sur cette terre, Dieu les regarde comme des choses importantes et comme des choses graves qui nécessitaient une action et puis qui n'étaient pas juste « cool, je suis sympa, je pardonne ». Donc, personnellement, je pense qu'on ne peut pas éliminer cet aspect-là de la mort de Jésus et de notre compréhension parce que c'est quand même assez et clairement présent dans la Bible. Et puis, c'est clair que ça entre en friction avec pas mal de visions humanistes d'aujourd'hui, mais c'est peut-être aussi parce que c'est un point de friction où on est en désaccord avec le reste de la société que ça vaut particulièrement la peine de le maintenir, parce que si on s'adapte toujours à ce que les gens pensent, on n'a plus aucun message à transmettre. Cette vision, j'ai choisi un peu de commencer par celle-là parce que traditionnellement, c'est celle qui est la plus mise en avant dans les milieux évangéliques, dont je pense beaucoup de personnes ici sont originaires. C'est aussi, je pense, la vision principale dans le luthéranisme et le calvinisme traditionnel, donc dans les premiers temps après la Réforme, et puis ceux qui sont restés là. Il y a aussi cette idée dans le catholicisme, je ne sais pas à quel point... je ne sais pas dans quelle proportion, mais en tout cas, c'est aussi quelque chose qui est connu chez les catholiques. Puis donc, Et puis juste pour vous préparer, si vous l'entendez mentionner dans le futur, il y a deux noms techniques pour résumer cette vision. Il y a soit celui de substitution pénale, soit celui d'expiation vicaire. Donc substitution pénale, donc substitution c'est un à la place d'un autre, et puis pénale c'est par rapport à une peine, donc c'est Jésus porte notre peine à notre place. Et puis expiation vicaire, donc j'ai déjà expliqué expiation, régler le problème du péché. Et puis vicaire, c'est aussi, c'est à peu près la même idée que la substitution. Donc l'idée, c'est que Jésus règle le problème du péché en prenant notre place. Et puis, dans cette vision, la conséquence pour nous, c'est qu'en croyant en Jésus, on peut être libéré de la culpabilité et de la condamnation. Alors, maintenant, je vais passer à un autre point qui est proche de celui-là, mais je me permets quand même de faire un petit développement sur l'Épître aux Hébreux, parce que c'est quelque chose que j'ai pas mal travaillé récemment. Donc, l'Épître aux Hébreux, elle prend un axe un tout petit peu différent. Elle part beaucoup de la question comment accéder à Dieu ? Comment, en tant qu'homme, est-ce qu'on peut venir dans la présence de Dieu ? Donc, et puis, elle part beaucoup des rites de purification qui étaient expliqués dans l'Ancien Testament. Je ne vais pas les détailler, mais en gros, ces rites, ils montraient qu'on n'accédait pas à Dieu n'importe comment, qu'il fallait être pur, qu'il fallait être parfait pour venir vers Dieu. Ça montrait que Dieu était saint, que Dieu était parfaitement bon, et puis que la présence de Dieu était incompatible avec un certain nombre de choses, avec des choses qui étaient résumées sous le terme de souillure, et avec aussi l'idée du péché. Mais dans l'Ancien Testament, en fait, ça ne marchait pas vraiment. Même le grand prêtre n'entrait dans la présence de Dieu qu'une fois par an, et puis il fallait sans arrêt répéter des sacrifices, ce qui montrait que ces sacrifices n'avaient pas vraiment un effet définitif. Et puis l'Épître aux Hébreux réfléchit à pourquoi ça ne marchait pas dans l'Ancien Testament, et puis il montre en gros deux raisons. La première, c'est que ce qui a vraiment besoin d'être rendu pur et parfait, c'est nos consciences, c'est notre être intérieur, et puis que le sang des boucs et des agneaux et tout ça pouvait avoir un effet que sur l'extérieur. Et puis l'autre chose, c'est que comme le grand prêtre lui-même n'est qu'un être humain, il n'est pas lui-même parfait, donc il ne vient pas vraiment devant Dieu pour accomplir les rites, donc il n'entre que dans un temple et un sanctuaire matériel, il n'entre pas dans la vraie présence de Dieu, donc les rites qu'il effectue n'ont pas un vrai effet face à Dieu. Donc en gros, les rites de l'Ancien Testament montraient qu'il y avait un problème pour accéder à Dieu. Il suggérait que peut-être des sacrifices étaient une manière d'y faire quelque chose, mais ils n'apportaient pas une vraie solution. Et toute idée de l'Épître aux Hébreux, c'est de dire, en fait, c'était fait pour, parce que ces rites de l'Ancien Testament ont été donnés comme une image pour aider à comprendre ce que Jésus allait vraiment faire une fois le moment venu. Et donc la manière de voir la mort de Jésus que ça amène, c'est que Jésus offre sa propre vie, donc une vie humaine avec une vraie volonté humaine et puis pas juste celle d'une bête. Et puis que comme lui, il est vraiment parfait dans sa conscience, comme lui, il est saint, à sa mort, il entre vraiment dans la présence de Dieu en portant son offrande. Et du coup, ça a un vrai effet sur nos consciences pour nous purifier, pour nous permettre d'accéder à Dieu. Et puis là aussi, j'ai pris un passage qui résume cette optique, donc dans Hébreux 9, les versets 11 à 14. « Mais Christ est survenu, grand prêtre des biens à venir. C'est par une tente plus grande et plus parfaite qui n'est pas œuvre des mains, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création-ci. Et non par le sang des boucs et des veaux, mais par son propre sang, qu'il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire et qu'il a obtenu une libération définitive. Car si le sang des boucs et des taureaux, et si la cendre de génisse répandue sur des êtres souillés les sanctifie en purifiant leur corps, combien plus le sang du Christ qui,
par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans tache, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant ? Bon, le passage est assez complexe et assez dense, mais on y voit les idées principales. Jésus est entré pas dans un sanctuaire matériel, mais dans la vraie présence de Dieu. Il n'offre pas le sang d'animaux, il offre son propre sang. Et puis, ça n'a pas un effet extérieur, mais un effet dans nos propres consciences. Donc là aussi, la mort du Christ sert à régler le problème du péché. Donc ça rejoint assez la première vision. Et en fait, pour moi, c'est un petit peu une sous-partie de cette première vision. Par contre, l'accent un petit peu différent qu'est mis, c'est que ce que ça permet, c'est pour nous d'approcher de Dieu. Donc là, ce qui est plus souligné dans cette vision, c'est la possibilité qu'on a en tant que croyant en Jésus-Christ d'accéder à Dieu dans la prière et l'adoration, accès qui n'était pas possible sans ça à cause de toutes les fautes qu'on a sur la conscience. Donc la conséquence pour nous, c'est l'accès libre auprès de Dieu. Passer maintenant à un troisième point qui sera un peu plus court, c'est sur la notion d'obéissance. Cet autre angle, c'est de voir que la source du problème entre Dieu et l'homme, c'est un problème de désobéissance. C'est la désobéissance d'Adam qui a refusé les instructions de Dieu dans le jardin d'Éden. Et puis, en désobéissant à Dieu, il a créé une situation de séparation, d'aliénation entre Dieu et les hommes. Et pour annuler cette désobéissance, il faut un autre homme qui obéisse parfaitement à Dieu. Mais tous les autres hommes, à la suite d'Adam, se sont révélés désobéissants. Aucun homme dans la situation actuelle n'arrive à respecter tout ce que Dieu demande. Et donc, pour pouvoir annuler cette désobéissance d'Adam, il a fallu que Dieu devienne lui-même un homme parfaitement obéissant qui accomplisse la volonté de Dieu. Et Jésus a été cet homme obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et puis, je cite juste dans l'Épître aux Romains, le chapitre 5, le verset 9. « Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Mais après, il faut faire gaffe, pour que ça ait un sens, il faut que ça change aussi notre manière de vivre. Christ n'a pas obéi pour que nous puissions continuer à désobéir, il a obéi pour nous ouvrir la voie de l'obéissance. La conséquence pour nous de l'obéissance de Jésus, c'est aussi de régler la situation justement de séparation et de conflit entre Dieu et nous. Ensuite, ça nous amène cette question du changement de comportement à une autre manière de voir qui est très présente et très importante dans le Nouveau Testament. C'est l'idée de voir que ceux qui croient en Jésus meurent avec lui et ressuscitent avec lui. Ça veut dire que les croyants meurent par rapport à une ancienne manière de vivre et ressuscitent pour vivre d'une nouvelle manière basée sur des nouveaux principes. Je lis dans la lettre aux Romains, au chapitre 6, les versets 4 à 12. « Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous menions nous aussi une vie nouvelle. Car si nous avons été totalement unis, assimilés à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Comprenons donc bien ceci. Notre vieil homme a été crucifié avec lui pour que soit détruit ce corps de péché et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libéré du péché. Mais si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité des morts, Christ ne meurt plus. La mort sur lui n'a plus d'empire.
car en mourant, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De même, vous aussi, considérez que vous êtes mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc plus dans vos corps mortels pour vous faire obéir à ses convoitises. Là-dedans, on voit un mécanisme très important, c'est celui de l'union à Christ, de l'union avec Jésus. C'est l'idée que dans la foi, on est uni à Jésus, et puis ça fait que ce qui lui arrive nous concerne aussi. C'est d'ailleurs important par rapport à la question du châtiment et aussi par rapport à la question de l'obéissance. Comment la mort de Jésus nous concerne, comment la punition tombée sur Jésus concerne nos fautes, parce que dans la foi, on est uni avec Jésus et que donc au moment où Jésus meurt, si on croit en lui, ben, dans un sens, on meurt aussi avec lui. Et puis, de la même manière, son obéissance nous concerne si on a choisi de vivre notre vie en accord avec lui, dans la confiance en lui, dans l'union avec lui. Pourquoi est-ce que ce que Jésus vit a une conséquence pour nous? C'est parce que si on croit en lui, notre vie est liée à la sienne. Et puis je dis un peu plus loin, dans cette même lettre aux Romains, un autre aspect de ce changement de principe de vie, donc chapitre 7, versets 4 à 6. Vous de même, mes frères, vous avez été mis à mort à l'égard de la loi par le corps du Christ pour appartenir à un autre, le ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. En effet, quand nous étions dans la chair, les passions pécheresses se servant de la loi agissaient en nos membres afin que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, mort à ce qui nous tenait captifs, nous avons été affranchis de la loi, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non plus sous le régime périmé de la lettre. Donc, l'ancienne manière de vivre, la manière de vivre par défaut, c'est celle de la chair, de la loi et du péché. La chair, c'est aussi un terme qui est utilisé d'une manière assez spécifique, en particulier dans les lettres de Paul. La chair, c'est notre nature humaine corrompue qui vit en rébellion contre Dieu. C'est notre nature qui ne veut pas vivre avec Dieu, qui ne veut pas lui obéir, qui ne veut pas vivre comme Dieu le demande. Et dans notre vie selon la chair, on est soumis au jugement de la loi. La loi, avec un grand L, elle dit ce qu'on devrait faire et elle constate qu'on ne le fait pas et elle nous condamne. Et puis, la chair, notre manière de vivre en rébellion contre Dieu, elle produit du péché, elle peut même utiliser la loi pour produire du péché. Elle peut même voir ce que la loi dit qu'on ne devrait pas faire et puis nous pousser à le faire d'autant plus. Donc, dans cette manière de vivre-là, on a des problèmes. On a des gros problèmes et on n'a pas tellement de manière d'en sortir. Mais si nous croyons en Jésus-Christ, alors on est mort à cette manière de vivre et on vit d'une nouvelle manière. Où c'est l'Esprit qui nous conduit, c'est l'Esprit de Dieu qui vient vivre en nous et puis qui prend le pas sur la chair, qui devrait prendre le dessus sur la chair. C'est la foi qui remplace la loi comme manière de savoir si on est juste devant Dieu. C'est par la foi en Jésus qu'on a notre statut devant Dieu et pas en se demandant si on obéit aux demandes de la loi. Et puis, la grâce remplace la condamnation. La grâce de Dieu, le pardon gratuit de Dieu, remplace la condamnation qui vient sur nous à cause de nos mauvaises actions. Mais maintenant, dans cette vie-ci, dans ce monde-ci, au quotidien, on est tous constamment en train de passer entre les deux manières de vivre, entre la manière de vivre en Adam, entre la manière de vivre qui a été inaugurée par Adam en désobéissant, la vieille manière de vivre, et la nouvelle manière de vivre en Christ. Il y a une lutte entre ces deux principes, de vie. Si on a cru en Jésus, le principe qui, de droit, doit s'appliquer, c'est le nouveau principe selon l'esprit, selon la foi, selon la grâce. Mais sur cette terre, l'ancien s'accroche et puis on est constamment dans une lutte entre la vie par l'esprit et la vie selon nos mauvais désirs et notre mauvaise manière de vivre. Et donc on est appelé à vivre progressivement, on est appelé à de plus en plus actualiser et mettre en pratique dans la réalité ce fait qui est accompli par la foi en Christ, qu'on a une nouvelle manière de vivre. Certains vont même jusqu'à parler de la divinisation de l'homme, donc pas qu'on va prendre la place de Dieu, mais qu'on devient de plus en plus semblable à Dieu dans notre manière de vivre et dans notre manière d'agir. Et puis, on peut voir cette idée, par exemple, dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, verset 18. « Nous tous, qui, le visage dévoilé, reflétons la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en cette même image, avec une gloire toujours plus grande par le Seigneur qui est esprit. » Donc, on voit cette idée que, en connaissant Dieu, en étant réconcilié, on est petit à petit transformé pour changer d'identité, changer de manière de vivre. Cette vision, elle est très présente dans les églises d'Orient, dans l'église orthodoxe. Ils mettent beaucoup d'accent sur le fait que Dieu a pris la nature humaine pour la transformer de l'intérieur. J'ai souvent entendu le résumé « Dieu est devenu homme pour que l'homme puisse devenir Dieu ». Avec la précision que je disais, que c'est pas le but de renverser Dieu de son trône pour s'y mettre à sa place, mais c'est le but de lui ressembler de plus en plus. Puis cette vision, elle a aussi été accentuée et défendue par les anabaptistes. Pour ceux qui savent ce que c'est les anabaptistes, ils mettaient beaucoup l'accent là-dessus, tout en reconnaissant aussi, en particulier l'aspect de substitution pénale que je disais au début. Et puis la conséquence pour nous, c'est que notre vie présente doit être transformée. Donc, c'est pas possible ni souhaitable de dire je veux être pardonné, mais je veux pas changer, parce que la libération de la condamnation et puis le changement de vie, ils viennent les deux par l'union avec Jésus. Donc, on peut pas dire je veux être uni avec Jésus quand c'est une question de jugement, mais je veux pas être uni avec lui quand c'est une question de comment je vis. Et puis d'autre part, la vie dans l'esprit, la vie selon ce que Dieu demande, c'est la vie la plus riche, c'est la vie qui est conforme à ce pourquoi on a été créé, c'est la vie qui est la plus satisfaisante. Alors si on se bat pour continuer à vivre dans la chair et dans la rébellion, on passe à côté de ce que l'existence devrait être, et on passe à côté de toute une partie des effets de ce que Jésus a fait pour nous, et puis ça, c'est pire dommage. Un autre aspect qui était en particulier très populaire dans l'Église primitive, c'est de voir la mort de la croix et la résurrection comme une victoire sur les ténèbres. C'est-à-dire, Jésus est allé affronter la mort sur son propre terrain et il l'a vaincu comme la résurrection le prouve. Alors, techniquement, on appelle cette vision Christus Victor, ce qui veut dire en gros Christ est vainqueur. Donc, il y a aussi la notion d'une victoire sur Satan et sur les puissances spirituelles mauvaises. Et puis c'est assez clair qu'il y a quelque chose de cette vision qui apparaît dans le Nouveau Testament. Là, je prends dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, les versets 10 à 15. « Vous êtes comblés en Jésus-Christ, qui est la tête de toute principauté et de toute autorité. Et vous vous trouvez pleinement comblés en celui qui est le chef de toute autorité et de tout pouvoir. En lui, vous avez été circoncis d'une circoncision où la main de l'homme n'est pour rien et qui vous a dépouillé du corps charnel. Telle est la circoncision du Christ. » Enseveli avec lui dans le baptême, avec lui encore vous avez été ressuscité, puisque vous avez cru en la force de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Et vous, qui étiez morts à cause de vos fautes et de l'incirconcision de votre chair, Dieu vous a donné la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé le document accusateur que les commandements retournaient contre nous. Il a fait disparaître, il a cloué à la croix. Il a dépouillé les autorités et les pouvoirs. Il les a publiquement livrés en spectacle. Il les a traînés dans le cortège triomphal de la croix. Là, dans ce passage, quand il est question d'autorité et de pouvoir, qui sont d'ailleurs écrits avec une majuscule dans la traduction que j'ai sous les yeux, il est question de puissances spirituelles mauvaises, de puissances spirituelles qui sont entrées en rébellion contre Dieu. Alors, la Bible ne donne pas beaucoup de détails sur comment marchent ces puissances, qui elles sont, comment ça fonctionne. Et en général, quand elle en parle, c'est pour dire que Christ les a vaincus. Donc, en parlant de ça, c'est pas pour vous encourager à essayer de savoir plein de choses dessus. Mais c'est pour dire, on voit que il y a cette notion que Jésus a vaincu des puissances hostiles qui s'opposent à Dieu et qui tenaient l'homme en esclavage en mourant sur la croix. Alors maintenant, vous allez des fois entendre des gens qui soutiennent que justement la vision de la mort de Jésus qui faisait foi dans les premiers siècles, c'est celle-là, et puis que ce qu'on devrait annoncer, c'est la victoire de Jésus, et puis que par exemple, parler de la mort de Jésus pour les péchés, c'est déplacé parce que c'est quelque chose qui aurait été formulé tardivement, et puis que dans les premiers temps, on avait plutôt la vision de Christus victor. Je pense que historiquement, c'est pas juste de dire que les autres visions sont beaucoup plus tardives et puis qu'elles n'étaient pas présentes dans les premiers temps. Je pense qu'on trouve une coexistence de beaucoup de visions dès les origines. Et puis aussi, je crois que quand on se demande pourquoi la mort de Jésus est une victoire, pourquoi elle était nécessaire pour vaincre ces puissances mauvaises, à mon avis, on est obligé de passer d'une manière ou d'une autre par certaines des autres visions pour dire pourquoi ça devait passer par là. Parce que si c'était juste l'idée qu'il fallait péter la gueule à Satan, Jésus est Dieu, Jésus est assez fort pour péter la gueule à Satan sans passer par la croix. Et puis d'ailleurs, on voit dans ce passage de Colossiens qu'il y a cette notion de victoire sur les autorités et les pouvoirs spirituels, mais qu'il y a aussi des allusions aux autres visions qui sont bien présentes. Il y a l'idée de se dépouiller du corps charnel, donc l'idée de changement d'un principe de vie, de mourir et ressusciter avec le Christ. Il y a la notion du pardon des péchés. Il y a l'annulation de l'accusation portée par la loi. Donc on voit que dans les textes même, ces différentes notions, elles se retrouvent facilement côte à côte et puis mises en rapport. Mais alors, en bref, quel serait le lien entre cette notion de victoire sur les puissances du mal et puis d'autres visions? En bref, je dirais que comme l'homme s'est rébellé contre Dieu, il est sorti de l'autorité de Dieu et du coup, il s'est mis sous l'autorité de puissances spirituelles inférieures qui l'ont asservi. Et c'est en permettant le pardon et la réconciliation avec Dieu que Jésus nous libère nous libère du mode de vie qui nous condamnait et nous libère de ces puissances des ténèbres justement qui avaient besoin de notre culpabilité et de notre rébellion contre Dieu pour avoir un pouvoir sur nous. Et donc la conséquence de cette vision pour nous, c'est qu'on n'a pas à avoir peur des puissances du mal, qu'on n'est plus sous l'autorité et la domination de Satan, de la mort et du péché. Alors maintenant, je pense que la question des puissances spirituelles, c'est peut-être pas une question très brûlante en Occident, où on a une vision assez matérialiste de comment le monde fonctionne. Et je pense pas que vous croyez... Il y a peut-être certaines personnes que vous pouvez croiser dans la rue qui vont avoir peur des démons et puis des anges déchus et tout ça, mais je pense que c'est pas la majorité. Par contre, si vous allez en Afrique, en Haïti, dans d'autres cultures, il y a des endroits où Oui, les puissances spirituelles, c'est une réalité quotidienne et c'est une question qui leur importe beaucoup. J'ai un ami, enfin collègue d'études, qui est pasteur au Burkina Faso, qui disait qu'en Afrique, si quand on annonce le message de l'évangile, on ne montre pas qu'il est plus puissant que les démons, les esprits de la nature et les sorciers, personne n'est intéressé. Qu'il faut montrer qu'il y a plus de puissance dans le nom de Jésus que dans les manœuvres magiques pour... même pour que les gens osent y croire et osent se détourner des autres pratiques qui existent. Bon, j'arrive maintenant au dernier angle de vue que je voulais aborder ce soir, c'est celui de l'influence morale. C'est de voir la mort de Jésus comme un exemple d'amour. Jésus serait mort pour manifester l'amour qui se donne totalement, qui va jusqu'au bout. Le but de sa mort, ce serait de nous servir d'exemple d'amour sans limite et puis de produire un changement en nous en nous incitant à l'imiter. Et donc c'est une vision qui a une certaine popularité aujourd'hui. Je crois qu'elle est assez présente dans les milieux protestants, dans les milieux protestants historiques aujourd'hui. On me corrige si c'est faux. Et puis bon, c'est assez certain que Jésus nous donne un exemple d'amour qu'on est appelé à imiter. Jésus lui-même dit « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et puis, de la même manière, l'apôtre Paul écrit dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 4 à 8, « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Là, on voit que Paul dit aux chrétiens de l'église de Philippe, voyez comment Jésus a agi, voyez comment il s'est humilié, comment il a été obéissant jusqu'à la mort. Prenez exemple sur lui, la manière dont Jésus se comporte, c'est un bon exemple de comment on doit vivre. Donc c'est clair que cette vision est présente. Maintenant, comme toutes les autres d'ailleurs, si on prend cette vision toute seule, je crois qu'elle est beaucoup trop courte. En particulier, pour que la mort de Jésus soit un acte d'amour, il faut qu'elle produise un effet sur nous pour une autre raison. J'illustre ça. Si je vous dis, je vous aime, et pour vous le prouver, je vais me tirer une balle dans la tête, c'est assez absurde. En quoi juste le fait de venir et de mourir, ça prouve de l'amour, ça donne pas un exemple d'amour à imiter, ça donne un exemple de métafumer, quoi. Par contre, si vous allez vous faire écraser par le train et puis que je vous tire de là en mettant ma vie en danger, là, vous pouvez vous dire que c'est un acte d'amour et que ça a un sens. Donc, bref, il faut que la mort du Christ ait un sens et un effet sous l'une ou l'autre des autres visions pour que la vision de l'exemple ait un sens. Sinon, c'est assez creux. Et puis, l'autre reproche que j'aurais à cette vision, quand on la monte en absolu, c'est que si on dit que ça, au final, ça se résume à une morale. C'est dire, eh oh les gars, vous feriez bien de vous aimer. Le truc, c'est que Jésus n'est pas le seul à avoir dit ça. Et puis que s'il suffisait d'un bon exemple aux hommes pour changer de comportement et se mettre à s'aimer les uns les autres, eh ben je crois que ça se saurait. Si on prend cette idée-là toute seule, ben ça part d'une idée très optimiste de ce que les hommes sont prêts à faire et de comment ils sont capables de changer. Et puis, je crois malheureusement que l'histoire humaine contredit cette vision optimiste. Mais si on Mais si on a d'autres manières de comprendre la mort du Christ, alors c'est très pertinent de prendre aussi Jésus comme exemple et puis de chercher à l'imiter. Et donc la conséquence pour nous dans cette vision, c'est un exemple d'amour, c'est l'amour à manifester les uns pour les autres. Donc voilà, je vous ai donné un grand survol de plusieurs manières de voir. Je pense que ça fait beaucoup d'informations, beaucoup de textes assez rapidement. Donc pour chacune de ces visions, j'ai choisi un ou deux textes bibliques, mais je pense que j'aurais pu en trouver plusieurs autres dans chaque cas. Et puis, en plus, je me suis rendu compte en préparant que très souvent, dans un même texte, un même passage, il y a des mentions qui se rattachent à plusieurs de ces visions-là. Donc, je vous les résume rapidement pour que ça soit frais. Donc, première vision, Jésus porte sur lui notre culpabilité avec deux axes. Un axe qui est celui du pardon. On n'a plus de condamnation sur nous parce que Jésus a porté notre condamnation. Et puis un axe, en prenant notre culpabilité, Jésus purifie notre conscience, ce qui nous permet de nous approcher de Dieu sans être séparés de lui par nos fautes. Ensuite, Jésus, comme vrai homme qui obéit jusqu'au bout et qui annule la révolte d'Adam pour tous ceux qui choisissent de reconnaître Jésus comme leur chef et celui qui veut le suivre. Il y a la vision qui dit « mort et ressuscité avec Jésus », donc qui mène à une nouvelle vie et une nouvelle manière de vivre. Il y a la vision qui dit « la mort de Jésus comme une victoire sur les puissances du mal » et qui nous dit que les puissances du mal n'ont plus de prise sur nous et qu'elles sont plus à craindre. Et puis finalement, Jésus comme notre exemple, avec comme conséquence qu'on est appelé à marcher sur ses pas. Donc, bref, je crois que la mort et la résurrection de Jésus sont des événements tellement importants et tellement riches qu'on est obligé d'y regarder sous différents angles pour en percevoir toute la portée. On peut être tenté de monter une théorie comme une autre, de dire « tu vois bien que ce n'est pas la substitution pénale parce que le Nouveau Testament montre la victoire sur les ténèbres » ou de dire « ce n'est pas l'influence morale parce que l'important c'est que la mort et la résurrection produisent un changement de nature dans nos vies ». Et puis on arrivera toujours à le faire parce qu'on trouvera toujours un texte pour soutenir la vision qu'on veut soutenir. Et parce que toutes ces visions, à mon avis, sont défendables au vu des textes bibliques. Mais je pense que si on fait ça, on se trompe parce que ces visions ne sont pas à mettre en opposition, mais qu'au contraire, elles s'accordent et puis qu'elles se complètent. Et je pense que si on s'imite à une seule vision, on a le risque de sous-estimer ce dont l'homme avait besoin et de sous-estimer ce que Jésus a accompli, ce qui serait quand même radicalement dommage.